L'éclairage sur vos stocks.
Alors aujourd'hui, nous recevons Nicolas Vadimov, réalisateur, documentariste et producteur genevois, fondateur de la maison de production Aka Film basée aux Eaux Vives. Nicolas Vadimov, bonjour, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler du film Un roi, 75 ans d'une histoire provisoire. Comment est venue l'idée de ce documentaire? Est-ce que c'est suite aux événements récents concernant l'Un roi ou est-ce que c'était déjà un sujet dont vous vouliez parler?
Cette idée est venue, l'année dernière, au moment du pic des attaques contre l'UNRWA, où on s'est dit le fait aussi que le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, soit suisse, le fait qu'il y avait un intérêt particulier dans ce pays pour cette question-là, le fait aussi que moi, ça fait plusieurs années, voire plusieurs décennies, que j'ai travaillé sur ces questions-là. J'ai beaucoup tourné en Palestine et en Israël et au Proche-Orient en général. Donc c'était un peu une évidence que c'était un sujet d'intérêt. Et j'ai eu l'occasion de faire un temps présent sur cette question-là, où on suivait Philippe Lazzarini qui, pendant 30 jours, essayait de sauver les meubles, en gros de retrouver des financements qui avaient été suspendus par les pays de l'Inter. Et en faisant ce film, qui était bien évidemment trop court, il faisait 26 minutes, on s'est rendu compte qu'il y avait bien plus à dire et que parler de l'UNRWA, de parler de son histoire, c'était aussi bien évidemment de parler de l'histoire de la Palestine et d'Israël depuis 1948.
Alors, le documentaire est réalisé en collaboration avec Yana Saleh, qui est journaliste à France 24. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre collaboration? Quels ont été les rôles de chacun concernant le documentaire?
Oui, alors, quand on a choisi de faire ce film, c'était une évidence que moi, je suis, on va dire, réalisateur, cinéaste. Je ne suis pas historien, je ne suis non plus pas journaliste, même si j'en ai quelques compétences. Mais on va dire que ma qualité première, ce n'est pas l'enquête, ce n'est pas la recherche. Et donc, assez vite, l'idée de s'adjoindre les services de quelqu'un, de collaborer, de faire un film ensemble, c'est imposé. Et puis, Liana Saleh, ça s'est imposé assez rapidement. Je l'ai rencontrée à Ramallah, on s'est vu dans des festivals de films autour de la Palestine, mais pas seulement, on a des amis en commun. Je dirais qu'on a une certaine famille en commun. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai demandé si ça l'intéressait. Ça l'intéressait beaucoup et on avait envie de travailler ensemble aussi. Donc voilà, on a commencé à démarrer sur l'écriture du film. Liana a beaucoup plus travaillé en amont. C'est elle qui a fait beaucoup les recherches. Elle a aussi été accompagnée par Irène Chaland, qui est la productrice du film, qui connaissait bien aussi le sujet. Donc, dans un premier temps, on a essayé d'être en contact avec des historiens, des chercheurs, des futurs intervenants du film. Il y a une espèce de casting qui opère à ce moment-là, d'avoir des points de vue qui se complètent, qui résonnent les uns dans les autres et qui tous ensemble peuvent raconter quelque chose. Donc voilà, on a préparé le film comme ça. Et puis le film, en fait, est assez simple dans son dispositif. C'est d'une part des entretiens au long cours qu'on a croisés ensuite pour raconter cette histoire et des archives. Voilà. Et assez rapidement, on a su aussi qu'on aurait accès à un corpus d'archives extraordinaire qui sont les archives de l'UNRWA d'une part et de la RTS et aussi d'autres organisations internationales.
Très bien. C'est un documentaire justement qui comporte majoritairement des images d'archives. Est-ce que c'était une volonté spécifique ou est-ce que ça a aussi un rapport avec le fait qu'aujourd'hui, tourner dans cette zone du globe est devenu encore plus complexe qu'auparavant?
Non, je ne pense pas que c'est parce que c'était compliqué d'y tourner. D'ailleurs, la séquence d'ouverture du film, je suis retourné au camp de l'UNRWA de Calandia il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, pour la tournée. Il n'y a qu'un endroit où on ne pouvait vraiment pas tourner, et encore on a essayé, mais c'est Gaza, où c'est encore maintenant interdit aux gens qui ne travaillent pas directement dans des ONG ou qui n'ont pas des fonctions diplomatiques ou humanitaires. Non, ce n'est pas ça qui nous a arrêtés, c'est plutôt l'idée que raconter 75 ans d'histoire, on avait vraiment envie de porter un regard sur tout ça, qu'il soit un regard, je dirais pas de spécialiste, parce que dire ça, ça exclut un peu, mais qu'il soit plus traversé pour le coup, et c'est assumé par la réflexion, par un recul sur cette histoire, plutôt que dans l'émotionnel. Et la question s'est aussi posée, est-ce qu'on peut faire un film 75 ans sur l'histoire de l'UNRWA sans travailler et être avec des familles de réfugiés palestiniens qui ont été beaucoup dans les films précédents qu'on a pu faire, et on s'est dit, oui, c'est un autre on est sur autre chose. Là, on a vraiment envie d'être plus dans la réflexion et de donner le temps aussi au spectateur de poser des éléments. On lui pose des éléments sur la table et ensuite, il peut procéder à un travail, je dirais, de réflexion sur la question.
J'ai une question que j'ai beaucoup envie de vous poser. C'est que nous sommes dans une société qui est de plus en plus polarisée. Le conflit israélo-palestinien est un sujet sensible qui divise. Quelles sont vos attentes, vos craintes, vos espoirs aujourd'hui en 2025 concernant la réception de ce nouveau documentaire ?
Ça, c'est la question qui tue, hein. C'est la vraie question. Non, bien évidemment qu'on se l'est posé. L'idée, c'est pas de, une fois de plus, de juste poser une table où on dit voilà, les opinions sont tellement polarisées que de tout ça, on ne peut rien faire. C'est plutôt de voir, je dirais, sans phare, sans faux semblant, ce que les uns et les autres, les unes et les autres, ont à dire, comment est-ce qu'ils articulent leurs pensées, on va dire des deux camps, hein, les Israéliens et les Palestiniens, même si les Israéliens, il y en a deux qui ont des positions diamétralement opposées, Ilan Pappé, qui est un nouvel historien israélien, qui parle de nettoyage ethnique, et Einat Wilf, qui conteste cette version-là. Mais de voir comment est-ce que toutes ces opinions qui s'agrègent d'une certaine manière autour de l'histoire de l'endroit peuvent raconter quelque chose d'un peu plus large, permettre aux spectateurs de prendre du recul, et fort de toutes ces opinions qui sont exposées, voir de quelle manière les unes et les autres résonnent, se répondent ou s'opposent aussi parfois, et essayer de mettre, pas le spectateur au travail parce qu'il fait ce qu'il veut, mais lui donner la possibilité de se mettre au travail s'il le souhaite. Voilà. On ne mâche pas tout, on n'a pas une voix off qui guide, on a une voix off qui présente les intervenants, qui contextualise, mais qui ne dit pas ce qu'il faut penser. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que, contrairement à ce qu'on dit souvent, justement dans ce torrent de réseaux sociaux, de discours menant ambiance, qui dirait que finalement les spectateurs, les auditeurs, les lecteurs sont stupides, sont otages de ce qu'on leur présente. Moi, je pense que les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le dit. Ils sont capables de réflexion et que si on ne les prend pas pour des cons, et qu'on propose des contenus intéressants, je pense qu'on peut aussi élever un peu le débat. C'est un peu ça l'idée.
Alors, vous avez une vingtaine de films à votre actif. La plupart traitent de sujets assez durs. Et si nous, déjà, en tant que spectateurs, sommes confrontés à des images parfois très difficiles à encaisser, j'imagine qu'en tant que réalisateur, vous l'êtes encore plus que nous. Comment faites-vous pour ne pas finir comme Sebastião Salgado qui allait faire des prises de vue dans la forêt amazonienne par ras-le-bol de l'espèce humaine ?
Je dirais que j'en suis pas très loin, hein, parce que moi, l'Amazonie que lui photographie, moi, par exemple, c'est la pêche. Donc, j'ai besoin d'une soupape. C'est vrai que, bon, moi, je suis pas photographe de guerre ni grand reporter de guerre, donc je suis pas tout le temps dans ces ambiances-là, mortifères, létales, terribles, mais j'y suis effectivement souvent confronté. Et j'ai l'impression que ça fait partie de la vie, en ce qui me concerne, moi j'ai l'impression qu'il faut confronter ça et puis essayer d'en parler. Mais effectivement, essayer d'en parler, il faut avoir du recul, pas avoir le nez dans le guidon en permanence. Et puis effectivement, je pense que comme la plupart des gens qui traitent, on va dire, ces sujets-là, il faut avoir des échappatoires. Pour certains, c'est la randonnée en montagne, pour moi, c'est la pêche.
Un très bon échappatoire. Alors, bon, pour finir sur un sujet un peu plus léger, à Radio Vostok, nous, on aime beaucoup la musique, et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la musique est assez discrète dans le film, mais néanmoins présente. Quelle a été votre démarche concernant la composition de la bande originale ? S'agit-il de thèmes ou de références à cet endroit du monde ? Ou bien est-ce que le but était surtout d'illustrer les émotions véhiculées par les images et interviews du documentaire ?
Ouais. Alors ça, c'est aussi, je pense, une question très intéressante, parce qu'il s'agissait... Bon, moi, je viens aussi de la musique. J'ai joué dans des groupes, j'y suis hyper sensible. Je dirais qu'avec le cinéma, c'est ce qui m'intéresse le plus, et la lecture. Et donc, j'accorde une attention particulière, Liana Salé aussi. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il faudrait faire une musique originale ? La quantité de moments différents et de c'est un film qui est tenu par les archives et par les entretiens tout le long, et je pense qu'il aurait été difficile de le chapitrer par séquence et d'avoir une musique originale qui puisse se déployer sur tout le film en racontant quelque chose, parce qu'on passe par des moments où on en a besoin beaucoup, par des moments où on est plus dans pas l'illustration, mais l'accompagnement très discret. Voilà. Donc finalement, on s'est dit, on va essayer de s'affranchir de cette question-là, et il se trouve qu'il y avait une musicienne, Dom La Nena, qu'on connaît, qui a eu la gentillesse déjà de nous mettre des morceaux à disposition dans le temps présent qu'on avait fait. Les musiques allaient tellement bien, on s'est dit on va travailler avec ces sons-là, mais ça ne faisait pas tout le film, bien évidemment. Ensuite, il y a Simon Schaeffer, qui est un jeune musicien très talentueux, qui a produit des sons extraordinaires. Donc on s'est dit, ah là, il y a quelque chose qui commence à raconter, qui va bien avec le film, qui devient très organique, et il manquait quand même des plages, des drones, des ambiances, des choses qui soient plus des sonorités. Et là, on a fait appel à Damien Schmocker, connu aussi sous le illustre nom du Baron, qui s'occupe du magasin Urgence Disque à l'usine, mais qui aussi était dans du groupe, qui a son label Urgence Disque, voilà, et qui a une banque de sons assez phénoménale. Et donc il est venu, il a regardé le film, il nous a proposé des sons qu'on a pu mettre sur le film, et finalement je pense que ça raconte quelque chose, tout ça ensemble.
Alors, vous avez aujourd'hui une carrière impressionnante, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes cinéastes qui nous écoutent ?
Waouh ! J'ai essayé d'en donner parce que je me suis occupé pendant 4 ans aussi de la HED, j'étais responsable du département cinéma, et j'essayais de donner. J'ai l'impression d'abord que je ne suis pas si sûr qu'aujourd'hui la jeune génération ait tellement envie de recevoir des conseils de la nôtre. Ça, je pense qu'il faut le poser d'emblée sur la table, que je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de recevoir des conseils tout court. Mais je dirais que les choses ont tellement changé à la fois dans les formes d'expression, dans les thématiques abordées, dans les langages, dans le rapport aux images. Moi, je viens d'une génération où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Maintenant, les choses, quoi qu'on dise, tous les cinéastes sont quand même fortement influencés, consciemment ou inconsciemment, par ça. Moi, la seule chose que je donnerais comme conseil, c'est de... Ça peut paraître bateau, mais c'est de s'autoriser aucune limite, de ne pas écouter ce que les gens disent et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je pense que le désir, c'est ce qu'il y a de plus important. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de cinéma et il n'y a rien. Quoi.
Nicolas Vadimov, merci beaucoup. Une interview très intéressante. Le film est une première mondiale. Il sera diffusé dans les prochains jours au festival. On vous souhaite la meilleure pour la suite.
Ben merci, c'était un plaisir et vive Radio Vostok.
Merci beaucoup.
Radio Vostok.ch